l'atelier de l'histoire.
C'est une première. Quatre anciens responsables Khmer Rouge vont comparaître devant un tribunal spécial parrainé par l'ONU à Phnom Penh. La première audience aura lieu le 17 février, 30 ans après le génocide. C'est une date historique pour le Cambodge et un espoir immense pour les victimes.
Lors des procès, il y a possibilité de témoigner de façon masquée. Mais moi, je souhaite comparaître à visage découvert. Et je veux faire face aux quatre responsables Khmer Rouge devant le public.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Soumriti veut témoigner. Il est partie civile au procès. Il a été détenu à Siem Reap, dans le nord du Cambodge, non loin des temples d'Angkor. Et c'est la première fois qu'il parle dans les médias et il s'en remet à la presse parce qu'il ne se sent pas écouté.
Lorsque j'ai voulu déposer plainte, un de mes enfants m'a dit « Si tu portes plainte, on risque tous de mourir, toute la famille. Cela va nous causer d'énormes problèmes. » Alors j'ai beaucoup pensé à ma sécurité et à celle de ma famille. Je n'ai rien dit. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis souvenu que lorsque j'étais dans le centre de détention, je m'étais juré que si un jour je retrouvais la liberté, je devrais respecter cette promesse faite à moi-même pour que justice soit rendue. En ce qui concerne la sécurité, c'est vrai que cela m'inquiète, mais il n'y a pas d'autre solution. Sinon, personne ne connaîtra notre histoire. Il faut bien qu'il y ait des victimes présentes au tribunal. Lors des procès, les audiences sont publiques, mais il y a possibilité de témoigner de façon masquée. Mais moi, je souhaite comparaître à visage découvert. Je veux faire connaître à tout le monde que je suis une victime et je veux faire face aux quatre responsables Khmer Rouge devant le public. Ce n'est plus le moment de cacher les choses.
Le premier responsable Khmer Rouge auquel Soumriti sera confronté, c'est Keng Kweng Yu, alias Doot. C'est son procès qui s'ouvre le 17 février. Doot dirigeait la prison de Tuol Sleng, où plus de 12 380 hommes, femmes et enfants ont été torturés avant d'être exécutés. Vous entendez la voix de Doot, le tortionnaire de Tuol Sleng, une voix enregistrée par une ancienne de ses victimes, le français François Bizot. Quelques années avant que Doot dirige Tuol Sleng, avant même la prise de pouvoir des Khmer Rouges sur tout le territoire, Doot s'occupait déjà d'un camp de prisonniers. François Bizot, alors qu'il termine son livre, Le Portail, rencontre Doot à Phnom Penh. Nous sommes en 2004 et cette fois c'est Doot qui est en prison.
Eh bien, en revoyant cet homme avec lequel j'avais eu l'occasion d'échanger quelques lettres par l'intermédiaire de son avocat, afin de donner quelques précisions dans le dernier chapitre de mon livre, sur des dates, sur des noms, sur des événements. Eh bien, en revoyant cet homme, ça a été un peu cette preuve par neuf de ce que j'avais déjà calculé, d'une certaine manière. C'est que, de la même manière que les bourreaux doivent déshumaniser leurs victimes pour pouvoir les frapper, eh bien, de la même manière, nous déshumanisons le bourreau pour qu'il cesse de nous faire peur. Et j'ai en mémoire que dans un de ses livres, Todorov dit « Chercher à comprendre, ce n'est pas chercher à pardonner ». Parce que la culpabilité de Doot est totale. Sa responsabilité est entière. Il porte en lui ses actes et rien ne peut minimiser ou diminuer l'horreur de ce qu'aura été son passage sur Terre pour des milliers de victimes. Il s'agit bien de cela.
Victimes et bourreaux vont donc se retrouver face à face dans le tribunal spécial de Phnom Penh et le Cambodge va revivre à cette occasion le génocide perpétré par les Khmers Rouges entre 1975 et 1979. Presque un tiers des Cambodgiens est alors exterminé. Avec l'historien Stéphane Courtois, nous revenons sur le projet des communistes cambodgiens lorsqu'ils prennent Phnom Penh le 17 avril 1975. Aux ordres de leur dirigeant Pol Pot et Khieu Samphan, les Khmers Rouges instaure la République démocratique du Kampuchea. Ils évacuent les villes, abolissent la monnaie, ferment les frontières, collectivisent les terres et vont immédiatement procéder à l'élimination des personnes liées à l'ancien régime.
Tout de suite, j'allais dire pratiquement dès les premières heures de la prise de pouvoir, on assiste à quelque chose d'absolument inimaginable et qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire que les Khmers Rouges décident de vider toutes les villes du territoire qu'ils viennent de conquérir. Et en particulier Phnom Penh, qui est à l'époque la capitale, qui compte à peu près 3 millions d'habitants à l'époque. Or, le pays comptait un total de 7,5 millions d'habitants. Donc, c'est presque la moitié de la population qui est là. Et en quelques jours, les Khmers Rouges vont vider entièrement la ville. Pour Pol Pot et ses amis, il y a dans cette zone qu'ils viennent d'occuper ce qu'ils appellent le peuple nouveau. C'est-à-dire des gens qu'ils n'ont pas contrôlés jusque-là et des gens qui, à leurs yeux, sont pourris par l'Occident. Ce sont des gens qui savent lire, qui savent écrire, qui sont des intellectuels, etc., etc. Donc ces gens-là, pour Pol Pot, ce sont globalement des gens irrécupérables pour faire un Cambodge révolutionnaire. Donc on a décidé de les expédier à la campagne où ils seront rééduqués et où, en fait, pour beaucoup d'entre eux, ils seront tout simplement exécutés. Ou alors on les laissera mourir de faim. Alors on aurait pu penser que c'est un moment ponctuel, je dirais, c'est-à-dire la prise de Phnom Penh et puis que ça allait se calmer au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Pas du tout. Ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer, c'est-à-dire que l'ensemble de la population à partir de ce moment-là est dépouillée de toute propriété. De toute propriété, vous n'avez plus droit à rien. Vous êtes juste propriétaire des vêtements que vous avez sur vous, d'un bol, d'une cuillère pour vous permettre de manger, et c'est tout. Hein. Et pour le reste, on organise une vie en collectivité absolument terrifiante, sous contrôle permanent, avec bien sûr des tas de mouchards, etc., qui rapportent tous ceux qui ont tenu des propos comme il ne fallait pas, qui étaient à tel endroit alors qu'il ne fallait pas y être, qui entretiennent telle ou telle relation, par exemple un homme avec une femme ou réciproquement alors qu'il ne devrait pas, puisque le parti contrôle aussi les mariages, les relations sexuelles, la vie des enfants, on enlève les enfants à leur famille très tôt, dès 4 ou 5 ans, on les arrache aux familles pour qu'ils soient élevés dans l'idée révolutionnaire. Donc voilà un fanatisme communiste qui est poussé tout à fait au bout et qui en plus dans un petit pays, puisque le Cambodge est relativement un petit pays de 7-8 millions d'habitants, va être appliqué avec un caractère, je dirais, imperturbable.
On m'a arrêté à Battambang. On m'a interrogé, torturé à l'électricité. Après une semaine, ils ont fait l'appel. On était une trentaine. Ils nous ont mis dans deux camions, fer aux pieds, ligés les uns aux autres. Je me disais, c'est fini. Je n'ai plus de vie à vivre. Les camions ont roulé longtemps, jusqu'à la nuit. J'ai vu une lumière électrique qui pénétrait dans le camion. J'ai pensé que c'était Phnom Penh. C'était vrai. Le moteur s'est arrêté. J'ai entendu les jeunes gardes crier de joie. Des loups devant leur nourriture. Ils ont ôté la bâche, éclairé nos visages. D'autres nous ont mis des menottes et jeté hors du camion. Après une journée en camion, on ne sent plus son corps. On ne se redresse plus.
Nous entendons différents témoignages des 7 survivants de la prison de Tuol Sleng. Ils ne sont que 7 à avoir survécu. Et aussi d'anciens gardiens, tous extraits du film de Ritipan, S21. Attention, ces témoignages peuvent heurter. Cette parole a donc été recueillie par le réalisateur Ritipan, lui-même rescapé des camps de travail Khmer Rouge, pour son film documentaire S21. Ritipan a parfaitement reconstitué le fonctionnement de ce centre d'extermination dirigé par Dout.
Il y a beaucoup de prisons au Cambodge, mais les spécificités de S21, c'est que S21 se trouve en plein Phnom Penh. Et il y a un type qui a la tête qui est Monsieur Dout et qui travaille directement avec un ministre qui s'appelle Sun Sen, qui est mort maintenant, exécuté par Pol Pot il y a quelques années. Dout est vivant, il est en prison, il attend son procès. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à S21, il y a aussi les étudiants qui viennent de France, qui viennent d'ailleurs, il y a aussi les intellectuels qui sont massacrés là. Donc c'est une machine qui vide la mémoire en fait. Pourquoi faire écrire des pages? En fait, on fait écrire aux gens leur histoire pour comme si vous videz votre tête. Quoi. Puis petit à petit, par la torture évidemment, on commence à leur introduire les choses très perverses. Par exemple, d'amis, on devient réseau. Vous avez plein d'amis, ça devient vos réseaux. Et ainsi de suite. Et après, là, vous êtes obligé de mentir à vous-même. Parce que ce sont vos amis. Et là, au bout de la quatrième ou cinquième torture, ça devient le réseau de traite. Puis à la fin, vous devez croire à ça.
Levez-vous. Levez les mains, je commence à fouiller. Je regarde, je tâte, les poches, la taille, je tâte encore, les jambes. Je cherche s'ils n'ont pas une plume pour s'ouvrir les veines, ni des vis ou des boulons qu'ils pourraient avaler. Je reviens au milieu, je recommence avec l'autre rangée.
Notre idée, c'est d'aller inscrire les gestes, les chronologies du geste. C'est le lieu du territoire même où le crime était commis. Quoi. Vous me direz, ça ressemble à la reconstruction. Mais ce n'est pas la reconstruction, parce qu'on retravaille sans cesse la séquence. On fait une séquence comme ça, puis on arrête, on le permet aux protagonistes, en l'occurrence les gardiens, les anciens gardiens, de réfléchir à ces gestes. Et parfois, ça débloque des choses qu'on n'a pas prévues. Par exemple, quand un des jeunes gardiens fouillait pour voir si les prisonniers n'ont pas de stylo ou une corde qui se cache, qui pouvait se pendre. Là, déjà, vous apprenez qu'il y a peut-être des gens qui se pendaient. Effectivement, quand vous allez voir les archives des Khmer Rouges, il y a eu des morts en pendaison. Les gens se suicidaient. Et puis, soudainement, il arrache une chemise à quelqu'un parce qu'on n'a pas le droit d'enlever sa chemise. Pareil, pas peur que le prisonnier se pende avec sa chemise. Et vous trouverez dans les archives comme ça. Mais c'est le fait d'arracher, c'est le fait de l'obliger à ne pas porter la chemise qui m'intéresse. Ça complète l'authenticité du rapport que les Khmer Rouges. Et les Khmer Rouges, c'est ce qui est incroyable avec eux, c'est qu'ils notent tout, dans ce S21 en tout cas.
À cette époque, j'étais jeune. Je ne pensais pas si bien. J'avais le sang chaud. On me disait de faire, je faisais. Tuer, je le faisais, du moment que j'obéissais à l'Anka. Aujourd'hui, quand j'y pense, c'était contraire à la loi. J'ai honte de moi, mais je n'y réfléchis pas. Quand j'y pense, j'ai mal à la tête. Alors quand on m'appelle pour boire et manger, je me saoule, je rentre et je dors. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Chacune de nos rencontres m'est très pénible. Je ne peux pas venir à ces rencontres, car ce n'est pas une belle histoire que nous évoquons. Nous ne parlons que de ce passé difficile à supporter et auquel nous ne pouvons échapper. Nous nous rencontrons, mais ce n'est pas une occasion où l'on se lave du mal. Je ne peux oublier ce que vous m'avez fait.
ជាពេលវេលាសម្រាប់លៀងខ្លួនឬសម្រាប់លៀងម៉ាមអីអត់ទេ
c'est un documentaire tout à fait étonnant et qu'on a, on a très rarement, en tant qu'historien ou même en tant que simple spectateur, l'occasion d'avoir une pareille confrontation, c'est-à-dire quelques survivants d'un système d'extermination, parce qu'il faut rappeler que cette fameuse prison de Tuol-Sleng, c'était effectivement une prison, mais c'était une prison où sont rentrées plus de 15 000 personnes et d'où pas une n'est sortie vivante, sauf cette. Tous les autres ont été torturés à mort et fusillés ensuite. Et il est extrêmement rare, enfin je ne connais pas d'autres exemples, où on a confronté des survivants d'un système d'extermination très précis comme ça, d'un camp d'extermination, et les bourreaux, c'est-à-dire les gens qui étaient les responsables de ce camp, qui pratiquaient les tortures, qui pratiquaient les exécutions. Et on voit effectivement que le système fonctionne tout seul. Les Khmers Rouges, enfin les dirigeants Khmers Rouges, ont sélectionné des gens tout à fait, j'allais dire, des gens ordinaires, des gens lambda, ce qu'on pourrait appeler le citoyen ordinaire. Ils les ont mis dans une situation d'être des bourreaux.
La Marche du Monde spéciale Cambodge, à l'occasion de l'ouverture imminente du procès de 4 responsables Khmer Rouge au tribunal spécial de Phnom Penh, devant lequel Dout sera présenté le 1er, le 17 février. Dout encourt la perpétuité, il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est un ancien professeur de mathématiques. Il est bien ce citoyen ordinaire dont parle l'historien Stéphane Courtois, qui dans le système Khmer Rouge est devenu un bourreau extraordinaire. Qui est Dout ? C'est la question à laquelle tente de répondre son ancienne victime, François Bizot. Il revient sur sa propre expérience de détenu, vécue en 1971, c'est donc avant S21. Bizot est alors convoqué quotidiennement par Dout.
Dout lui-même menait les interrogatoires, lesquels se transformaient souvent en discussions, puisque c'était la manière qu'il avait choisie pour essayer de percer mon honnêteté dans un discours qu'il pouvait lui tout à fait contrôler, sur des questions qu'il me posait et dont il pouvait vérifier auprès de mes deux compagnons l'authenticité. Et donc c'était une sorte de jeu où lui-même répondait à mes questions et moi-même j'avais l'impression d'être autre chose qu'un objet de rétorsion en lui posant des questions à mon tour.
Ce que vous n'avez pas encore dit, c'est que vous avez peur, mais vous avez peur très clairement de mourir.
Enfin, bon, moi, j'avais une accusation qui était très claire, c'était celle de travailler pour la CIA. Donc, il n'y avait pas beaucoup de nuances autour de ça. N'ayant jamais travaillé pour personne d'autre que l'école française d'Extrême-Orient, il n'y avait pas une véritable ambiguïté en moi-même. En tout cas, même comme ça, je me sentais probablement coupable. Et si j'avais pu ne pas être enchaîné et ne pas être traité comme un prisonnier, j'aurais accepté tout de suite le verdict, quitte à ce que ce soit un verdict définitif, éventuellement la mort, ça peut paraître bizarre, mais souvent je me l'étais répété, plutôt que cette espèce d'attente qui ne conduisait à rien.
C'est l'image de la cellule où j'ai été entravé en 1978, quand on m'a amené de Batam Bang. J'étais ici. Ils en prenaient un, puis un autre, puis des nouveaux. Je me trouvais là. Ils emmenaient les prisonniers, je ne savais pas où. La mort venait tous les jours. Parfois, tous les deux jours, un mort. Parfois, deux morts en un jour. Ils laissaient les cadavres, ils les sortaient 10 ou 12 heures plus tard. Et on dormait avec le cadavre.
À Tuol-Sleng, il est absolument certain que je n'aurais pas pu être épargné. Ce qui a fait que j'ai pu l'être dans la forêt d'Om Liang en 1971, c'est que Dout était nouveau dans le camp. C'était une fraîche responsabilité qu'il avait accepté de prendre. Il avait gagné le maquis seulement quelques mois avant. Et il avait tout de suite été dirigé dans cette forêt pour prendre la direction de ce petit camp qui n'avait en permanence qu'une quarantaine de prisonniers, enfin de futurs condamnés. Jusque-là, il fait partie du mécanisme, de la machine, d'autant plus qu'il est poussé par un respect réel pour ses chefs une confiance aveugle, eh bien je crois justement que là, Douit a donné un coup de manivelle ou un coup de frein en disant « Ce type est innocent. Vous me demandez de participer à l'élimination des ennemis de notre chère patrie et vous me demandez de tuer le Français. Je pense qu'il ne fait pas partie de ses ennemis. » Alors, il n'est pas exclu que Pol Pot, relayé par Von Wett, qui était le mentor de Douit dans le maquis, lui-même président de la zone spéciale, et donc très proche du sommet du pouvoir, que Pol Pot ait consenti à cette espèce de vœu bizarre d'épargner quelqu'un. Alors c'était quand même beaucoup plus facile de me tuer que de m'épargner. Mais là encore, s'il a tenu à ça, Douit, c'était justement pour les raisons qu'il faisait qu'il allait être lui-même un Khmer Rouge de premier ordre, un révolutionnaire de premier ordre, parce qu'il m'a sauvé au nom de la vérité. Cette vérité au nom de laquelle aussi il a tué tous les autres.
Douit est responsable de la mort de 12 380 hommes, femmes et enfants à Toul Slang. Dans le cadre du procès qui s'ouvre à Phnom Penh, une reconstitution a eu lieu au centre de Toul Slang, S21, qu'il dirigeait. Douit s'est trouvé en face des anciennes victimes, il leur a demandé pardon. Et les victimes elles-mêmes ont dit que c'était des paroles qu'elles attendaient depuis 30 ans. 30 ans qu'elles vivent avec leur douleur.
La mort venait tous les jours, parfois deux morts en un jour. Il restait les cadavres. Il sortait 10 à 12 heures plus tard et on dormait avec les cadavres. Parfois dans la nuit, la lumière attirait les insectes. Ils tombaient ici et là. On les prenait en douce et on les mettait dans la bouche. Si le gardien nous surprenait, il frappait sur nos oreilles avec sa chaussure, 3 ou 4 fois de chaque côté. On perdait connaissance et le grillon ressortait de la bouche. Les yeux bleus hissés, il saignait presque. J'ai été là un mois. J'ai fait mes besoins deux fois. Je n'avais rien à le ventre. 2 cuillères de bouillon par jour, qui tiendrait?
Victime de S21, mais aussi victime de tout le système répressif des Khmers Rouges, une quarantaine de personnes ont vaincu leur peur et se sont portées partie civile. Soumriti, qui ose parler pour la première fois, nous a conduit sur le lieu même de la fosse commune de la prison de Siem Reap, où il était incarcéré.
Moi, mon métier, c'était de réparer les motos. Mais quand je n'avais pas de travail, les Khmers rouges m'ordonnaient de venir mettre les cadavres dans des fosses. Alors il fallait creuser des trous et mettre 10 cadavres par trou. Et même épuisé, il fallait que je fasse ce qu'ils me disaient de faire, sinon je me serais fait tuer. Chaque jour, les Khmers rouges comptaient les morts. Et moi, je devais les aider à sortir les cadavres du centre de détention. D'abord, il fallait attacher les corps à un bout de bois par le cou, les hanches et les chevilles, et ensuite les emmener jusqu'ici. Et tout ça se faisait sous la surveillance des Khmers rouges. S'il y avait 30 personnes enterrées, il fallait d'abord creuser 3 fosses, et puis on les jetait dedans, et à la fin on recouvrait de terre.
Bỏ 5 nhẹ tới từng hiệp đối ổ nhưng từng hiệp đạn nhưng ăn như đấy
Là où nous sommes, je suis sûr qu'il y a des ossements sous nos pieds. Je les ai enterrés de mes propres mains.
Somriti et toutes les victimes présentes feront face à leur bourreau à partir du 17 février, premier jour du procès de Doot à Phnom Penh. Le tortionnaire de Tho Sling encourt la perpétuité. Doot, le tortionnaire de Tho Sling, c'était une marche du monde réalisée par Isabelle Godineau, avec la complicité de Dominique Bayard et de notre envoyée spéciale au Cambodge, Sophie Malibaud. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans l'atelier de l'histoire avec Elika Mbokolo qui fera le portrait de Mamadou Dia. Quant à moi, je vous inviterai à voyager au Brésil avec les Gitans.